bonsoir. C'est Noir, l'émission de Noir, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Jacques, bonsoir.
Bonsoir, Corinne.
Au sommaire, dans une première partie, nos coups de crime.
Nos coups de cœur.
Ah, alors celle-là. Non, je n'ai tué personne, je vous promets, monsieur, je n'ai tué personne.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes dans nos coups de cœur.
Voilà, et puis c'est aussi le titre, une partie du crime du roman dont tu vas nous parler. Donc je reprends au sommaire nos coups de cœur dans la première partie. Et dans une deuxième partie, nous aurons la joie de recevoir, qui a publié un livre qui nous a beaucoup enthousiasmé, Pierre Lemaître. Donc Jacques, il y a crime dans le titre du premier livre dont tu vas nous parler.
Et le roman s'appelle « Omaha Crime ». C'est un roman de Michel Bussy. Il est sous-titré « Le thriller du débarquement ». Je précise bien Omaha et pas Obama.
Oui, non, comme, on n'est pas.
Comme certains
point.
L'ont dit, non, de toute façon, on date de 2007 et Obama existait déjà, mais pas, il n'était pas encore président. Il est paru aux éditions PTC en 2007.
Et étonnamment, c'est une rencontre qui nous a fait lire ce livre.
Voilà, en fait, on a rencontré cet auteur, Michel Bussy, à un festival qui s'appelle Sans d'encre, en novembre donc, 2008. Il avait gagné le prix en 2007 et donc il était du coup président du jury de 2008. Donc on a eu l'occasion de le rencontrer. Comme c'était un auteur inconnu, dans une maison d'édition inconnue, pour la bonne raison que c'est une maison d'édition locale à Rouen. Donc il ne doit pas dépasser la Seine.
Et nous précisons que Rouen n'est pas trop près de Nice.
Voilà. Et en fait, c'est un roman sur le débarquement, mais pas simplement. Ça commence en tous les cas sur la plage de Omaha Beach, comme le nom semble indiquer. Donc, un peu comme le roman, à quelques heures de débarquer sur la plage d'Omaha Beach, deux soldats qui sont dans les péniches de débarquement, il y a un fils de famille, Oscar, un fils de famille un peu pleutre, et Lucky, le bon gars typique, on voit bien l'américain standard. Ils échangent leur numéro.
Lucky guy,
voilà. Mais il a Lucky parce qu'il a beaucoup de chance quand il joue au poker. Et en fait, ils échangent leur numéro d'ordre pour la sortie de la péniche, pour la coquette somme de 1,4 million de dollars, quand même, qui en 44. C'est déjà pas mal, et maintenant aussi, d'ailleurs, ça me sait bien. Évidemment, comme les premiers sortis ont toutes les chances beaucoup moins de chances de s'en sortir que les derniers, on comprend la valeur de l'échange. Bien des années plus tard, donc en fait, faut dire que Lucky, il n'a pas eu tant de chance que ça parce qu'il meurt. Bien des années plus tard, en 64, Alice, qui est la fiancée de Lucky, apprend l'enjeu de l'échange, les 1,4 million de dollars, qu'elle n'a pas reçu, bien évidemment. Donc elle va tout tenter pour récupérer son bien. On va voyager, de la Normandie, où s'est passé le débarquement, aux confins des États-Unis, où se situe d'où était originaire le Oscar en question. Et on va remettre à jour, bien sûr, pas mal de secrets qui remontent dans le passé. C'est très bien construit, il y a une galerie de personnages assez intéressante. On passe de 1944 à nos jours, avec plus ou moins 1944 à nos jours, avec plus ou moins des flashbacks. Tout au long du roman, la description des lieux, bien dire que Michel Bussy est prof de géo, donc ça doit peut-être aider dans son boulot. Certes, on pourra trouver par contre quelques faiblesses au niveau des dialogues qui sont pas toujours, on n'a pas toujours l'impression qu'on aurait pu les dire comme ça. Et il y a une qui sont juste à la limite du vraisemblable, mais ça passe très bien. Après tout, on n'est pas dans un récit historique. Par contre, il y a vraiment un souffle qui tient le lecteur en haleine, comme disait Paris.
Ah oui.
Notre ami Paris. Merci d'avoir remarqué. Et on ne lâche pas si facilement le livre.
Ah bah c'est que c'est un beau morceau, Hélène. Hein, donc,
voilà. Donc en fait, l'idéal, ça serait que les éditions PTC ou maintenant les éditions refassent une... Parce qu'on peut le trouver sur leur site internet, n'hésitez pas, vous pouvez le commander.
Mais est-ce que si on va chez son libraire favori, on peut quand même commander
ce livre? On peut le commander,
on arrivera à l'avoir.
Oui, on arrive à l'avoir. Les PTC rééditent régulièrement distribue le livre, donc il n'y a pas de problème pour le trouver. N'hésitez pas, vous tapez Michel Bussy ou édition PTC sur...
Et vous pouvez le commander.
Voilà, vous pouvez le commander.
Et si jamais vous avez un problème, vous pouvez le faire commander
à votre médiathécaire, par exemple aussi.
Oui, c'est pas bête ça. Voilà, donc on rappelle de Michel Bussy aux éditions PTC. Moi, je vais parler d'un éditeur beaucoup mieux distribué. C'est un livre qui est paru il y a le mois dernier chez Métayer. Un éditeur qu'on suit beaucoup parce que très bon choix éditoriaux. C'est un livre qui s'appelle Le Palmier et l'Étoile de Leonardo Padura. et c'est Ena Zayas. En fait, ce livre, c'est une réédition d'un livre qui a été publié en 2003, enfin, traduit tout au moins en 2003.
C'est réédition en format de poche.
Voilà, c'est réédition en format de poche, donc ce qui permet d'avoir ce livre pour 11 euros. Et moi, je connaissais Leonardo Padura par rapport à 4 romans qui mettent en scène son personnage fétiche, le flic très mélancolique, Mario. Et ça se passe à Cuba et on découvrait plein de choses. Là aussi, on va plonger dans les méandres de l'histoire cubaine à travers les destins en fait, de 3 hommes qui suivent à 3 époques différentes des chemins étrangement parallèles. Donc 3 récits qui s'enchevêtrent. En ce moment, on a l'habitude d'appeler ça un livre polyphonique ou un livre choral. J'aime pas trop ces expressions. Donc on a d'abord le récit le plus moderne.
Ça fait les Fernando. Livres chorales, mais bon.
Non, ça existe encore. Donc, je reprends, si je
peux. On coupera au montage, pardon.
On coupera, ouais. Donc, Fernando, le personnage le plus moderne, qui, après des années d'exil, revient à Cuba, pour chercher un manuscrit de José María Heredia, le fameux poète, mais aussi trouver l'ami qui l'a traduit. Deuxième récit, celui des mémoires d'Heredia lui-même, totalement inventé par Padura. Ces mémoires n'ont jamais existé. Enfin, troisième récit, l'histoire du manuscrit perdu d'Heredia. On est donc à 3 époques, puisque le manuscrit perdu d'Heredia a été cherché vraiment par le fils d'Heredia dans les années 1920. Je rappelle que Heredia, c'est 1830-1840.
Et ce qui est assez... Il n'a pas vécu longtemps. Hein.
Oh là là. Oui, il a été d'ailleurs célèbre très très jeune, dès la fin de son adolescence. Donc, ce qui est assez intéressant, ce que montrent ces 3 destins enchevêtrés, c'est qu'on retrouve la même litanie de trahison et d'exil qui marque en fait l'histoire de cette île, Cuba, et qui imprègne aussi la littérature cubaine. Je cite l'auteur, « En acceptant cette castration, on est là dans les mémoires d'Heredia, en acceptant cette castration que, définitivement cruelle, j'inaugurais, j'étais une fois de plus le novateur, j'inaugurais la triste pratique de la censure dans la littérature cubaine, tout en pressentant que mon exemple allait être suivi par de nombreux écrivains et pour longtemps. Il n'était pas que poète, il était prescient. » Donc c'est Heredia, c'est sous la plume de Leonardo Padura. C'est là que ce livre m'a entre autres impressionné, c'est que j'ai trouvé vraiment que l'écrivain, il avait du culot. Au début que j'ai commencé ce livre, d'oser écrire à la place du poète cubain. C'est quand même pas évident de se dire c'est comme si que c'était ce grand poète. Et chapeau, c'est une prouesse. Il est parfaitement crédible et il est parfaitement à la hauteur. Il utilise, je sais pas un artifice, hein, mais il utilise une narration particulière, des longues phrases quelque peu emphatiques, enflammées. Souvent désespéré, on ne peut pas dire que José María Heredia souffle un vent d'optimisme fantastique. Il n'y a pas d'anachronisme non plus, c'est impeccable. Et aussi grande prouesse, il passe d'un récit à l'autre, donc 1830, 1920, maintenant, par un simple et subtil changement de phrase. Plus on se rapproche de l'époque des années 2000, plus les phrases se raccourcissent, des mots un peu plus abrupts, des tournures plus franches. Et simplement, on saute d'un paragraphe à l'autre et tout d'un coup, on sait qu'on a changé de personnage. C'est brillant, c'est une plume brillante. Et on a là une très belle méditation sur la culture et l'histoire politique cubaine. Et l'on trouve en fait dans ce livre ce que Fernando, un des personnages, un des protagonistes du roman, qui est lui aussi un passionné de littérature, dit ce qu'il peut attendre d'un beau roman, la capacité d'émouvoir avec beauté et passion. Voilà, j'en dirai pas plus. Vraiment, un excellent roman. Je rappelle le titre, Le palmier et l'étoile, de Padura, chez Métayer. Je rappelle la traductrice qui a fait aussi un très beau travail, Ena Zayas. Et pour illustrer Cuba...
Eh bien, la capacité à émouvoir avec beauté et passion, ça va très bien pour Compay Segundo, extrait du disque de Buena Vista Social Club, la musique du film de Wim Wenders. Non, c'est bien ça, oui. Et le morceau s'appelle « Y tú qué has hecho ?» Ça veut dire « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Thank you.
por una niña. Carabó su nombre en chiva de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor.
Donc on va passer du Nil à la cité phocéenne, me semble-t-il, à moins que Maurice Guérand nous envoie,
si, si,
nous emmène ailleurs.
Manière, comme la plupart des livres de Maurice Guérand, il commence au moins, en tous les cas, à Marseille, même plus précisément qu'à Marseille, à l'Estac, et même plus précisément qu'à l'Estac, au Rove. Donc un roman de Maurice Guérand, on en parle de temps en temps quand même dans cette émission.
On en parle régulièrement.
Régulièrement, c'est... qui est donc toujours publié aux éditions Gigal, c'est son 14e. Et les...
Le titre,
c'est « Les vrais durs meurent aussi ». Une allusion à un titre de polar que vous trouverez tout seul. Il vaut 17€, c'est dans la grande collection. Donc, tout de suite, comment ça commence ? Une série de légionnaires à la retraite sont assassinés. Cela ne préoccupe pas vraiment grand monde. Il faut dire qu'ils avaient fait l'Indo et aussi l'Algérie. Alors, les saloperies, ils devaient en avoir plus d'une à leur actif. Et donc, que quelqu'un veuille les buter, même après tant d'années, après tout, ça n'est rien d'étonnant. Mais voilà.
On s'est fait quelques amis.
Ouais. Et on s'en prend à l'un des habitués du Bobard, à l'Estac.
Ah, il faut dire que c'est un des guignols qu'on retrouve toujours.
Voilà,
dans...
ça commence pratiquement toujours là. C'est le bar dans lequel Clovis Narigou, qui est l'espèce d'alter ego romanesque de Maurice Guérand. D'ailleurs, Narigou et Guérand, c'est un anagramme. Voilà, donc, comme on s'en prend à un des consommateurs du Bobard, un habitué, un pote de Narigou, il va sortir de sa bergerie du Rove, dans lequel...
Il faut dire qu'il est chevrier, il élève des chèvres.
Voilà, après avoir été enquêteur, ça, il s'est un peu mis à la retraite, mais il enquête toujours. Donc, il va sortir de sa bergerie pour savoir qu'est-ce qu'il est passé à ce... Qu'est-ce qui s'est passé à ce brave copain du bar. Et pourtant, il y a sa belle Alexandra... qui est revenu et nul doute qu'il préférerait rester au lit ou à la plage vu qu'on est en été.
Pourquoi il est malade ?
Oui. Mais cette enquête va lui faire découvrir, et à nous par là même, c'est l'avantage des romans de Maurice Guérand, des choses cachées sur la guerre d'Indochine et d'Algérie. Et surtout sur la façon dont on a traité les Harkis, et précisément aussi là, les exilés du Vietnam, qui avaient fait le bon choix... de revenir en France au moment de la fin de la guerre.
Est-ce que ce serait un petit délit d'initié ?
Non, non, non. Mais donc, ces mecs-là, ils se sont retrouvés en France et puis ils ont été parqués dans des camps absolument affreux.
Ah, pardon, je n'avais pas...
Voilà. Et donc, c'est le cas du camp de Sainte-Livrade, qui est dans le sud-ouest, où Clovis Narigou va découvrir un peu toute cette histoire. C'est une des grandes forces des romans de Maurice Guérand de remettre au jour les histoires des histoires sur des faits bien vite oubliés et souvent enfouis sous des tonnes de bonnes raisons et de bons sentiments. Du génocide arménien aux essais nucléaires dans le Pacifique Sud, des couloirs de la mort à la compromission des politiques du sud de la France avec les mafias et le grand banditisme. Maurice Guirand, c'est pas du tout un militant, ni un rebelle, mais il use de sa plume pour exprimer dans ses romans sa rage et son indignation. C'est son œuvre littéraire qui fait aussi œuvre pédagogique, en tous les cas, il me semble, tout en divertissant, car ce sont des vrais polars avec des intrigues cousues main, comme on pourrait dire, et en plus qui donnent un certain charme, une faconde tout à fait provençale, qui régale bien sûr les sens, car on y mange, on y boit, on y baigne.
Ouf ! Le gneu est intéressant, voilà. Puisque comme tu as commencé par dire qu'il était souvent au lit, nous avons eu peur.
Ah bah, c'est quand il y a sa charmante compagne qui revient de Paris, c'est bien normal. Oui. Et voilà, donc je rappelle, Maurice Guirand, Les vrais durs meurent aussi, aux éditions Gigal. Et maintenant, eh ben, nous allons pas tarder à passer aux informations.
À tout à l'heure.
18h30 sur Agora FM, bon début de soirée. Tout de suite, l'information régionale vous est développée par Vicky Bérardi.